bonjour à vous, cher auditeur, chère auditrice. En route sur les chemins de la philosophie, direction le XVIIIe siècle pour la dernière étape de notre exploration du siècle des Lumières qui nous conduit aujourd'hui de l'autre côté du miroir, le miroir persan d'Usbek et de Rica. Bonjour Christophe Martin.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
Vous avez dirigé un ouvrage collectif consacré aux lettres persanes de Montesquieu aux presses universitaires Paris-Sorbonne. Vous avez lu les lettres persanes sans doute toute votre vie, vous venez en parler aujourd'hui. Vous vous souvenez de la première lecture des lettres persanes ?
Écoutez, oui, je pense que c'était il y a une trentaine d'années, en classe préparatoire. C'était une magnifique découverte, c'est un des textes qui m'a fait aimer le XVIIIe siècle avec Rousseau.
Et vous n'en êtes pas là aujourd'hui, LAS ?
Ah non, je n'en suis pas lassé, non, c'est un texte, c'est banal de le dire, mais vraiment inépuisable, on peut le lire, le relire, il y a toujours quelque chose à trouver, parce que c'est un texte qui est fondé sur l'idée de rapport, voilà, donc on met toujours en rapport une lettre avec une autre, une idée avec une autre.
Plus. Montesquieu naît en 1689, 5 ans avant Voltaire, et publie en 1721 le texte qui le rendra immédiatement célèbre quand on découvrira son identité, les Lettres persanes. Dans cette espèce de roman, selon la formule de Montesquieu lui-même, deux persans, Usbek, maître de sérail, propriétaire de nombreuses femmes et de nuques, quittent la Perse pour fuir le despotisme, Erika, plus jeune et plus joyeux aussi, eh bien, voyagent ensemble et leur voyage les amène à Paris, qu'ils décrivent longuement dans des lettres adressées à différents destinataires, femmes, amis lointains, Dervy. Alors, dans cette espèce de roman, toujours, tout le monde a la parole et l'arroseur est bien souvent arrosé. Ceux qui dénoncent et se présentent comme victimes se retrouvent coupables. Ceux qui observent la paille occidentale découvrent la poutre orientale dans leur propre regard et vice-versa. Cet univers de miroir fait réfléchir, d'ailleurs, Christophe Martin, est-ce qu'on peut vraiment parler de roman ? Pourquoi Montesquieu parle d'une espèce de roman ?
Alors oui, c'est une formule, comme vous l'avez dit, c'est une formule assez tardive. Hein, c'est dans les quelques réflexions, c'est un texte qu'on ne sait pas bien dater, mais des années 1750.
Quelques réflexions sur les lettres persanes.
Quelques réflexions sur les lettres persanes, qui est une préface vraiment essentielle maintenant. Mais c'est un texte qui est écrit 30 ans plus tard. Et au moment de la première publication, Montesquieu n'envisage pas le terme roman. Pour une raison assez simple, c'est qu'au fond, ce qu'il est en train d'inventer n'existe pas. C'est-à-dire le roman épistolaire polyphonique, c'est-à-dire à plusieurs épistoliers, ça n'existe pas. Donc il n'a même pas l'idée de le désigner comme roman, et il dit très bien dans les quelques réflexions qu'il a contribué à inventer un genre, au fond, qui a été imité. Ce qui existait, c'était les lettres de la religieuse portugaise, par exemple, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle une monodie épistolaire, un seul épistolier. Et puis pas de dimension philosophique ou satirique, c'est vraiment pure lettre amoureuse, ou alors des lettres satiriques, à l'inverse, comme les provinciales de Pascal. Mmh. Et donc lui a eu l'idée proprement géniale d'inventer une forme qui lui permet d'intégrer des lettres satiriques, philosophiques, sur toutes sortes de sujets, avec une intrigue tout de même, hein, parce que espèce de roman, il le justifie tout de suite, très bien, admirablement, en disant qu'il y a une chaîne secrète. Hein. La formule a beaucoup fait rêver, a beaucoup fait écrire, on s'est demandé qu'est-ce que c'était que cette chaîne secrète. Alors, on peut la gloser pendant très longtemps, mais au fond, Montesquieu apporte le meilleur commentaire, peut-être. Hein, c'est que, en effet, l'extrême hétérogénéité des matériaux qui se trouvent dans les lettres persanes est tout de même reliée par une dimension temporelle et narrative qui fonctionne sur deux axes, au fond. Il y a la durée du séjour des persans en Occident et à Paris, donc il reste 9 ans. Donc il y a un phénomène d'acclimatation, d'acculturation. Hein, l'étonnement est moins grand, donc les lettres se font moins satiriques aussi au fur et à mesure qu'on avance dans le recueil. Le regard se fait de plus en plus philosophique, approfondi. Usbek tend même à s'approprier les idées les plus avancées, qu'on va dire après les idées des Lumières. Et dans le même temps, à proportion de cette acclimatation, c'est l'ancrage oriental, c'est-à-dire le sérail, qui se désagrège. Hein, donc on a un phénomène en quelque sorte d'agrégation d'un côté, hein, Uzbek et Rikas s'agrègent à la société occidentale, et le sérail, pendant ce temps, se désagrège parce que, dit Montesquieu, la fureur augmente et l'amour diminue. Magnifique formule qui dit presque tout sur le sérail. Ce roman de sérail, on appelle souvent roman de sérail, ça c'est la dimension proprement romanesque du recueil, mais qui fait tenir le tout ensemble.
Parce qu'il faut dire que quand Uzbek et Rika sont en voyage, ils laissent dans leur pays
voilà.
Les habitants de ce sérail, c'est-à-dire avec lesquels ils vont dialoguer, et le sérail, bien loin d'être, disons, en sourdine pendant toutes ces années, au contraire, va connaître une nouvelle organisation, puisque les chefs sont absents.
C'est ça.
Et on peut lire le sérail, mais aussi tout le texte. Il y a une dizaine de façons d'entrer dans ce texte. Vous l'avez dit sans doute par la polyphonie, c'est extrêmement riche. Mm-hmm. Mais il y a parmi d'autres piste de lecture, celle du despotisme qui est dénoncé d'un côté comme de l'autre et qui, on voit, donc qui est reconduit même en l'absence des chefs eux-mêmes.
Qui est reconduit en l'absence et qui... Alors là, on est tout de suite au cœur d'une problématique très importante. En effet, la question de l'absence est capitale et tout le problème, je dirais, est de savoir si l'absence du despote ou du maître de sérail est une circonstance, finalement, qui va créer du désordre, un phénomène circonstanciel, enfin, ça fonctionnerait bien si le despote était là, ou si... Peut-être c'est une manière pour Montesquieu de réfléchir à quelque chose de structurel dans le despotisme, où à certains égards, le despote est par définition absent. Il règne toujours, il exerce son pouvoir par procuration, par délégation. C'est quelque chose que Racine avait déjà un peu compris dans Bajazet. Hein. Le ressort essentiel de Bajazet, c'est l'absence du maître, hein, du sultan. Et la pression qui s'exerce sur le sérail, la pression terrible, est en fonction de ce maître d'autant plus redoutable qu'il est absent. Ça permet d'inventer des intrigues en son absence, peut-être de le trahir, mais il y a toujours la menace d'un pouvoir d'autant plus violent que le maître est absent et qu'il va demander à ses eunuques, hein, en l'occurrence là je parle à nouveau d'Uzbek, hein, Uzbek va demander à ses eunuques d'abord d'être vigilant. D'abord de distraire ses épouses, parce qu'évidemment, 9 ans, c'est long.
Et il y a beaucoup d'épouses.
Il y a beaucoup d'épouses. Donc, la fureur augmente, comme dit Montesquieu, c'est-à-dire aussi la frustration, hein, chez les épouses. Mais on ne peut plus tempérer le pouvoir qui est dans la nature du sérail. Hein. Le maître du sérail exerce un pouvoir sur les épouses. Il ne peut plus tempérer cela par le désir, l'amour, puisqu'il est absent. Donc, les eunuques ont plein pouvoir, en quelque sorte. Ils ont plein pouvoir, mais ils ne tempèrent pas l'exercice du despotisme, hein, par la jouissance amoureuse. Il n'y a plus rien, il n'y a plus que la brutalité du rapport de force, puisque les femmes ont aussi un pouvoir sur les eunuques, hein, en tant que, précisément, ils sont leurs esclaves, au fond. Donc c'est un flux et reflux d'empire extrêmement complexe que décrit Montesquieu avec une virtuosité admirable.
Et c'est dire à quel point la politique, les passions, la morale et la philosophie sont liées dans ce texte. Dans ses réflexions sur les lettres persanes, Montesquieu écrit « Dans les romans ordinaires, les digressions ne peuvent être permises que lorsqu'elles forment elles-mêmes un nouveau roman. On y saurait mêler des raisonnements parce qu'aucun des personnages n'y ont été assemblés pour raisonner. Cela choquerait le dessin et la nature de l'ouvrage. » Mais dans la forme des lettres, où les acteurs n'en sont pas choisis et où les sujets qu'on traite ne sont dépendants d'aucun dessin ou d'aucun plan déjà formé, l'auteur s'est donné l'avantage de pouvoir joindre de la philosophie, de la politique et de la morale à un roman et de lier le tout par une chaîne secrète, la voici, et en quelque façon inconnue. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas seulement le désir d'exprimer une pensée, d'observer son propre pays ou même l'Occident en général depuis un point de vue étranger, il y a vraiment le désir de montrer que ce désir-là est peut-être cette chaîne secrète qui lie ensemble la philosophie, l'art d'écrire, l'art d'observer, mais aussi l'espèce de laboratoire des passions qu'est le sérail, oui, et la dimension morale qui est présente dans tous ces aspects. C'est rare d'avoir une œuvre qui rassemble autant toutes ces dimensions.
C'est tout à fait saisissant. Bon, le commentaire de Montesquieu est génial, hein, vraiment. En un sens, on peut dire que...
On ne
peut pas faire mieux. Hein. En quelques phrases, il donne vraiment une... Non pas une clé, mais une proposition de lecture qui est d'une fécondité extraordinaire.
Il a très peu écrit en plus avant le texte.
Absolument,
lui-même.
C'est quelques traités académiques, quelques petits textes. Hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'il c'est un texte qui est étonnant. Il dit si on connaissait l'auteur, hein, on trouverait que ce texte jure avec son caractère, c'est-à-dire que c'est un homme. Montesquieu appartient à la noblesse de Rome. Il a une position éminente. Or, évidemment, se livrer à cet exercice un peu romanesque, un peu frivole, ça peut sembler très étrange. Et en réalité, c'est un texte absolument inépuisable, qui, même par rapport aux grandes œuvres, c'est-à-dire l'Esprit des Lois, qui est un texte évidemment admirablement mûri pendant plus de 20 ans.
Publié d'ailleurs plus de 20 ans après, non ?
Exactement, publié en 1748. Mais si l'on observe bien, si l'on lit attentivement les lettres persanes, il y a énormément de choses qui sont déjà en germe, hein, dans la réflexion, notamment, pour le dire très vite, hein, les fameux principes, hein, de gouvernement, à savoir qu'il y a trois types de gouvernement, hein, le despotisme, la monarchie et la république, avec chacun un principe. Hein, le despotisme, c'est la crainte, la monarchie c'est l'honneur, la république c'est la vertu. Alors cette répartition n'existe pas dans les lettres persanes, la typologie n'est pas posée comme telle, mais au fond les ressorts sont déjà extrêmement bien identifiés. Hein, il est évident que le ressort du despotisme tel que l'analyse Usbek avec beaucoup de lucidité quand il analyse le despotisme comme tel et avec beaucoup d'aveuglement lorsqu'il exerce un despotisme dans son sérail, il fonctionne sur ce ressort essentiel qu'est la crainte et une crainte réciproque. Tout le monde se craint entre femme et eunuque. Hein, c'est un système où il n'y a pas de liberté possible, pas de vertu possible et pas d'amour du despote possible. C'est ça le drame d'Usbek. Il n'y a pas d'amour possible dans le sérail.
Alors, avant de pénétrer dans le sérail, parce qu'on va y aller de manière assez tragique, mais on se garde ça pour un peu plus tard, Christophe Martin, écoutons la lettre 30, qui est sans doute la plus connue du recueil, puisqu'elle termine par une phrase, alors que je ne vais pas dire, je vais vous laisser la découvrir par la voix du comédien Georges Clès, mais qui est en fait la phrase qui peut résumer toute l'intrigue, hein, enfin tout l'enjeu même de ce texte. Mm. On est la lettre 30, alors, le personnage qui arrive à Paris, on s'attend à découvrir à travers son regard un étonnement de chaque instant devant tout ce qu'il découvre. Or, il n'en est rien. Il se rend compte que c'est lui qui suscite l'étonnement de tous. Écoutez comment ce renversement, ce jeu de miroir, est décrit ici par Montesquieu.
Les habitants de Paris sont d'une curiosité qui va jusqu'à l'extravagance. Lorsque j'arrivais, je fus regardé comme si j'avais été envoyé du ciel. Vieillards, hommes, femmes, enfants, tous voulaient me voir. Si je sortais, tout le monde se mettait aux fenêtres. Si j'étais aux Tuileries, je voyais aussitôt un cercle se former autour de moi. Les femmes faisaient même un arc-en-ciel nuancé de mille couleurs qui m'entourait. Si j'étais au spectacle, je trouvais d'abord 100 lorgnettes dressées contre ma figure. Enfin, jamais homme n'a tant été vu que moi. Je souriais quelquefois d'entendre des gens qui n'étaient presque jamais sortis de leur chambre, qui disaient entre eux « Il faut avouer qu'il a l'air bien perçant ». Chose admirable, je trouvais de mes portraits partout. Je me voyais multiplié dans toutes les boutiques, sur toutes les cheminées, tant on craignait de ne m'avoir pas assez vu. Tant d'honneur ne laisse pas d'être à charge. Je ne me croyais pas un homme si curieux et si rare. Et quoique j'aie très bonne opinion de moi, je ne me serais jamais imaginé que je dusse troubler le repos d'une grande ville où je n'étais point connu. Cela me fit résoudre à quitter l'habit persan et en endosser un à l'européenne pour voir s'il resterait encore dans ma physionomie quelque chose d'admirable. Cet essai me fit connaître ce que je valais réellement. Libre de tous les ornements étrangers, je me vis apprécié au plus juste. J'eus sujet de me plaindre de mon tailleur qui m'avait fait perdre en un instant l'attention et l'estime publique, car j'entrais tout à coup dans un néant affreux. Je demeurais quelquefois une heure dans une compagnie sans qu'on m'eût regardé et qu'on m'eût mis en occasion d'ouvrir la bouche. Mais si quelqu'un par hasard apprenait à la compagnie que j'étais persan, j'entendais aussitôt autour de moi un bourdonnement. « Ah, ah, monsieur est persan, c'est une chose bien extraordinaire, comment peut-on être persan ?»
France Culture, les chemins de la philosophie, la lettre 30 des lettres persanes de Montesquieu qui nous accompagne aujourd'hui en compagnie de Christophe Martin qui vient nous parler de ce texte inépuisable. Alors la phrase « Comment peut-on être persan ?» il faut l'entendre de manière polyphonique hein, là aussi puisque c'est à la fois « Comment est-ce possible ?» Comment fait-on pour être persan? Qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, que signifie être persan comme que signifie être français? Dès lors que quand on enlève les habits, eh bien, il ne reste plus rien. Est-ce que être persan veut dire autre chose que porter un certain costume? Christophe Martin.
Oui, quand on disait en effet que ce texte est inépuisable, la lettre 30 est emblématique de cela. Elle l'est proprement inépuisable. Hein, et pourtant, en effet, c'est la plus connue, la plus célèbre. On l'a lu, on l'a relu à l'école, parfois au lycée. Enfin bon. Mais elle est fascinante. Cette dernière formule est fascinante. Je vais y revenir dans un instant. Mais la lettre elle-même, c'est vraiment une lettre en elle-même miroir. Hein, elle est conçue sur le thème du miroir, du regard et du renversement, hein, d'une symétrie parfaite entre au début, donc, Ricade décrit avec un ton d'extraordinaire ironie amusée l'hypervisibilité qui est la sienne. Tout le monde veut le voir. On est déjà dans la société du spectacle.
Hein, jamais homme n'a été tant vu que moi.
C'est une phrase merveilleuse. Et on fait des portraits de lui, qu'on s'échange, tout le monde le voit. Et une expérience, parce que vous avez tout à l'heure parlé de laboratoire des passions, mais je crois que vraiment l'idée de concevoir la fiction comme expérience est fondamentale pour Montesquieu. Montesquieu est dans une logique expérimentale, par ailleurs. Hein, on connaît la célèbre expérience sur la langue de mouton.
Non.
Alors, la langue de mouton, vous savez, c'était pour... Dans ses réflexions sur le climat, pour savoir si une langue de mouton qu'on mettait dans un environnement très froid ou dans un environnement très chaud changeait d'allure, d'aspect. Hein. Les nerfs se rétractent dans le froid et au contraire se dilatent.
Ah, là, il en tire les conclusions de l'influence du climat sur les tempéraments de chacun.
Tempéraments, exactement. D'accord. Donc bon, c'est une petite anecdote, hein, mais qui est intéressante sur la logique expérimentale empiriste, hein, c'est-à-dire dans le sillage de John Locke. Hein, Montesquieu est totalement dans cette logique-là, hein. Et il utilise la fiction vraiment comme une expérimentation, hein, sur des idées. Et là, on a une expérimentation interne, en quelque sorte. Hein. C'est Rika, le personnage, conçoit une petite expérience pour savoir réellement ce qu'on veut voir quand on le regarde. Hein. Est-ce qu'on s'intéresse à son être ou à son paraître? Eh bien, pour ça, il y a une variable qui est très simple. Hein. Il faut savoir, la variable, c'est justement l'habit, pour savoir si on s'intéresse à lui-même ou simplement à son apparence. Donc, changeons d'habit, adoptons l'habit occidental et immédiatement, le résultat est clair, c'est l'invisibilité complète. Plus personne ne s'intéresse à lui, il devient transparent, un passe-muraille, vraiment.
Et puis il le décrit avec des mots très durs, hein, il parle d'un néant affreux.
Un néant affreux, c'est vraiment, c'est à la fois ironique, mais c'est à la fois d'une acuité, hein, sur le regard social, la la superficialité de l'intérêt qu'il suscitait auparavant. On ne s'intéressait à l'étranger, au persan, que de manière très superficielle, comme une sorte d'exotisme. Et donc, c'est une curiosité qui est l'inverse de la curiosité de Rica. Lui est animé par un désir de savoir, un désir de comprendre la société occidentale, son fonctionnement, alors par l'étonnement, mais comme vous l'avez dit, un étonnement qui est très vite surmonté, parce que, justement, il tente des choses, des petites expériences pour comprendre mieux. Et alors que la curiosité qu'il suscite chez les Occidentaux, chez les Parisiens, est totalement superficielle, plus personne ne s'intéresse à lui. D'où cette question lancinante, comment peut-on être persan, qu'on peut décliner à l'infini. D'ailleurs, les journalistes ne s'en privent pas. C'est une des formules qu'on rencontre encore, comme ça, comment peut-on être ce que l'on est. Parce que, en un sens, c'est la question à laquelle nul ne peut répondre. Comment peut-on être ce que l'on est? Bon.
Et surtout, que reste-t-il de ce que nous sommes quand on se débarrasse de toute forme d'apparence?
Voilà.
Au fond, il y a Pascal qui est pas très loin dans ce texte. Enfin, il me semble, puisque Pascal qui dit qu'on n'aime jamais quelqu'un que pour des qualités empruntées, qu'on ne sait pas où est le moi, et qui justement essaye de cerner ce que pourrait être l'essence du moi sans l'apparence physique.
Oui.
Quand Rica décrit que il a eu sujet de se plaindre de son tailleur qui lui avait fait perdre en un instant l'attention et l'estime du public, qu'il entrait tout un coup dans un néant affreux, il ne dit pas autre chose.
Tout à fait. C'est Pascal qui dit on n'aime que les qualités. Regardez, si on aime une belle jeune femme et puis si elle est atteinte d'une maladie, elle est défigurée, on ne l'aime plus. Qu'aimait-on en elle, l'être ou le paraître? On est dans la droite ligne. C'est tout à fait fondamental. Et la référence à Pascal est très importante.
Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, on la retrouve.
Et les provinciales sont un des modèles pour les lettres satiriques.
Une écriture par épistolaire. Enfin,
exactement. C'est ce que je disais. Avant Montesquieu, avant les lettres persanes, il existait deux traditions épistolaires. La tradition vraiment un peu amoureuse élégiaque, représentée par les fameuses lettres de la religieuse portugaise, et la tradition satirique des provinciales. Et le génie de Montesquieu, c'est d'avoir réuni ces deux traditions, mais il s'est beaucoup inspiré de Pascal, notamment dans les merveilleuses lettres satiriques sur les jésuites, qui sont parmi les plus admirables des lettres persanes dans leur férocité, mais une espèce de férocité enjouée qui est très étonnante, qui est très savoureuse.
Alors on va continuer ensemble la lecture des lettres persanes, mais un mot avant d'avancer, de continuer cette lecture sur ce qui s'est passé avant. Je l'ai dit, c'est la lettre 30.
Oui.
Il y a quand même eu 29 lettres avant celle-ci.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'on y a appris,
Christophe? Qu'est-ce qu'on y a appris? Alors, en quelques mots, parce que les 29 lettres appelleraient chacune
une émission entière
entière.
Ça, c'est vrai.
Mais alors tout d'abord, on nous décrit le voyage d'Usbek. Usbek écrit à ses amis pour leur dire ça y est, je suis parti, avec un intéressant d'ailleurs. Non pas mensonge, mais une première justification du voyage. Il quitte Ispahan par curiosité, pur désir de savoir. Et puis, on apprend quelques lettres plus tard qu'en réalité, lorsqu'il écrit à un ami plus proche, un confident, en réalité, non. Il part pour des raisons politiques,
pour
fuir le despotisme. Donc c'est une manière d'introduire un des thèmes qui va être un fil rouge tout au long du recueil. La fuite du despotisme, alors qu'il n'exclut pas le désir de savoir, la curiosité. Usbek explique que oui, il s'est entiché des sciences pour trouver un prétexte pour partir, mais ensuite il est réellement tombé amoureux de ce qu'il appelle la science, enfin de la philosophie, c'est-à-dire le désir de savoir, la libido scandi, comme disaient les théologiens, qui était condamné, je le rappelle.
Donc, désir de savoir.
Désir de savoir, curiosité, c'est le péché originel, au fond, le manger de l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance. C'est pour les augustiniens, c'est-à-dire pour Pascal, pour le coup, là il y a un complet désaccord avec Pascal. C'est une des concupiscences mauvaises, la curiosité. Alors que là, c'est en cela que les lettres persanes sont emblématiques des Lumières. C'est vraiment une légitimation de la curiosité, du désir de voir, de savoir, mais avec aussi, on vient de le voir pour la lettre 30, on écarte la mauvaise curiosité. Alors, pardon, je reviens, donc, que s'est-il passé? Donc, il y a la description des motifs du voyage, il y a déjà des lettres aux épouses. Les deux grands moments du roman de Sérail, pourrait-on dire, c'est le début du recueil et la fin, et puis ensuite, il y a quelques lettres égrenées au fil du recueil pour qu'on n'oublie jamais cette relation d'Usbek à ses épouses absentes, lointaines, et leur relation aux eunuques, et on perçoit la dégradation. Mais au départ, on a des lettres passionnées des épouses qui disent « Ah, Usbek, tu nous manques, c'est terrible ». Mais sont-elles sincères? nul ne le sait. Et puis on a, en quelques mots, on a tout un groupe de lettres qui est assez fameux, c'est la fable des troglodytes. Alors, en quelques mots, c'est une femme qui cherche à répondre à la question. C'est Usbek qui invente, qui propose cette fable en réponse à un ami qui lui demande est-ce que les hommes sont plus heureux par l'exercice de la vertu ou par la satisfaction de leurs désirs ? Et donc, Usbek répond par une fable très fénelonienne, extrêmement inspirée du Télémaque de Fénelon, et qui apporte une réponse indécise, avec d'abord les mauvais troglodytes qui s'exterminent eux-mêmes par leur absence de vertu, au fond, hein, ils sont tellement animés par un égoïsme, enfin c'est un petit peu hobbesien, hein, c'est Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, donc il n'y a aucune solidarité, rien, donc les premiers troglodytes sont voués à l'extinction, il y a juste un couple qui survit, des bons troglodytes qui refondent une communauté sur l'exercice de la vertu. Et cette société est florissante, donc c'est un anti-despotisme. Là aussi, Montesquieu pose des jalons pour la suite. Une société qui est fondée sur l'exercice de la vertu, alors que précisément le despotisme exclut par principe la vertu, puisque le principe c'est la crainte. Hein, donc il n'y a pas de liberté, donc pas de vertu possible. Mais même donc il n'y a pas d'utopie non plus, parce que cette bonne société troglodyte, Usbek indique qu'elle est. Elle tend naturellement vers une forme d'entropie, de dégradation, parce que un jour, on demande, les bons troglodytes veulent un roi. Ils s'adressent au plus sage d'entre eux, mais le plus sage d'entre eux pleure de ce qu'on lui demande d'exercer un pouvoir qui devrait, au fond, dans une communauté vertueuse idéale, être exercé par chacun. Donc voilà, voilà ce qui se passe avant. Vous voyez. Et puis il y a la lettre 24, qui est très fameuse aussi, où Rika, avant la lettre 30, donc, observe avec un étonnement et une malice merveilleuse ce qu'il en est de Paris. Paris est aussi grand qu'Ispahan, mais sauf qu'elle est bâtie en l'air. Toutes les maisons sont posées les unes sur les autres, ce qui l'étonne beaucoup, évidemment. Et ce côté un peu magique où les maisons sont bâties en l'air est prolongé dans toute cette lettre où on nous décrit le roi Louis XIV comme un magicien parce qu'un jour il décide qu'un louis égale deux louis quand il a besoin d'argent pour financer ses guerres.
Tout le monde lui obéit immédiatement.
Tout le monde lui obéit et tout le monde croit. Ouais. C'est un magicien. Il est décrit comme un magicien.
C'est un magicien.
Et le pape est un plus grand magicien parce que chez lui, 1 égale 3. Ce qui est évidemment une savoureuse manière de parler du dogme de la Trinité. Donc, on a déjà énormément de thèmes qui sont proposés dans les premières lettres.
Avec celui de la légitimité ou non de l'enfermement des femmes, la question se pose comme telle et elle accompagne d'ailleurs tout. Pratiquement toutes les lettres, du début à la fin, on va en entendre une notamment dans laquelle Usbek écrit à Roxane en disant « Mais vraiment, vous ne savez pas la chance que vous avez d'être enfermée car votre pureté est préservée là où je suis. Au contraire, les femmes sont dévoilées dans tous les sens du terme, justement. » Et alors, cette lettre le dit frontalement, mais il y a plusieurs, même des lettres de Rika également à Ibn, où il se demande voilà, s'il est plus avantageux d'ôter aux femmes la liberté que de la leur laisser. La question se pose. C'est une question aussi du droit naturel. Hein. Faut-il reconnaître la liberté naturelle des femmes ou non ? Et il est passionnant de voir comment la conception que chacun se fait, que chacun a de cette question, va évoluer au cours du roman. Alors, je vous propose qu'on écoute la lettre 26, donc juste avant la lettre 30, donc de Usbek à Roxane, et ensuite la réponse, beaucoup plus tard, mais qui semble répondre directement à cette lettre, de Roxane au constat, à la défense de l'enfermement qui est faite par Usbek dans ce texte. Écoutez.
« Si vous aviez été élevé dans ce pays-ci, vous n'auriez pas été si troublé. Les femmes y ont perdu toute retenue. Elles se présentent devant les hommes à visage découvert, comme si elles voulaient demander leur défaite. Elles les cherchent de leur regard. Elle les voit dans les mosquées, les promenades, chez elle même. L'usage de se faire servir par des eunuques leur est inconnu. Au lieu de cette noble simplicité, de cette aimable pudeur qui règne parmi vous, on voit une impudence brutale à laquelle il est impossible de s'accoutumer. Oui, Roxane, si vous étiez ici, vous vous sentiriez outragée dans l'affreuse ignominie où votre sexe est descendu. Vous fuiriez ces abominables lieux et vous soupireriez pour cette douce retraite où vous trouvez l'innocence, où vous êtes sûr de vous-même, où nul péril ne vous fait trembler, où enfin vous pouvez m'aimer sans craindre de perdre jamais l'amour que vous me devez. quand vous relevez l'éclat de votre teint par les plus belles couleurs, quand vous vous parfumez tout le corps des essences les plus précieuses, quand vous vous parez de vos plus beaux habits, quand vous cherchez à vous distinguer de vos compagnes par les grâces de la danse et par la douceur de votre chant, que vous combattez gracieusement avec elles le charme de douceur et d'enjouement, je ne puis pas m'imaginer que vous ayez d'autre objet que celui de me plaire. Et quand je vous vois rougir modestement, que vos regards cherchent les miens, que vous vous insinuez dans mon cœur par des paroles douces et flatteuses, je ne saurais, Roxane, douter de votre amour.
J'ai séduit tes eunuques, je me suis joué de ta jalousie, et j'ai su de ton affreux sérail faire un lieu de délices et de plaisir. Je vais mourir, le poison va couler dans mes veines, car que ferais-je ici puisque le seul homme qui me retenait à la vie n'est plus. Je meurs, mais mon ombre s'envole bien accompagnée, je viens d'envoyer devant moi ces gardiens sacrilèges qui ont répandu le plus beau sang du monde. Comment as-tu pensé que je fusse assez crédule pour m'imaginer que je ne fusse dans le monde que pour adorer tes caprices? Que pendant que tu te permets tout, tu eusses le droit d'affliger tous mes désirs? Non, j'ai pu vivre dans la servitude, mais j'ai toujours été libre. J'ai réformé tes lois sur celles de la nature, et mon esprit s'est toujours tenu dans l'indépendance. Tu devrais me rendre grâce encore du sacrifice que je t'ai fait, de ce que je me suis abaissée jusqu'à te paraître fidèle. De ce que j'ai lâchement gardé dans mon cœur, ce que j'aurais dû faire paraître à toute la terre, enfin de ce que j'ai profané la vertu, en souffrant qu'on appelât de ce nom ma soumission à tes fantaisies. Tu étais étonné de ne point trouver en moi les transports de l'amour. Si tu m'avais bien connu, tu aurais trouvé toute la violence de la haine. Mais tu as longtemps l'avantage de croire qu'un cœur comme le mien t'était soumis. Nous étions tous deux heureux. Tu me croyais trompé, et je te trompais. Ce langage sans doute te paraît nouveau. Serait-il possible qu'après t'avoir accablé de douleur, je te forçasse encore d'admirer mon courage? Mais c'en est fait. Le poison me consume, ma force m'abandonne, la plume me tombe des mains. Je sens affaiblir jusqu'à ma haine, je me meurs. Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie et l'acte de liberté absolue de Roxane qui passe par un suicide dans la lettre 161 des lettres persanes de Montesquieu dont il est question aujourd'hui. Disons-le tout de suite, Christophe Martin, cet échange de lettres n'a pas pour corollaire une défense de la monogamie. C'est pas ça qui est en jeu, parce que finalement, la monogamie est tout aussi dénoncée dans le texte et par Montesquieu.
Oui, tout à fait.
Montesquieu est beaucoup plus subtil que ça.
C'est beaucoup plus subtil que ça. Il n'y a pas de critique de la polygamie comme telle. D'abord, Montesquieu pose toujours les questions d'une manière, on pourrait dire, assez froide. Il expose les problèmes. Vaut-il mieux enfermer les femmes que les laisser libres? C'est Rica qui pose la question, mais on pourrait dire que c'est une manière pour Montesquieu de poser le problème du rapport entre les sexes en termes de rapport de force aussi. Il y a une dimension politique de la question des femmes qui est la manière dont Montesquieu pose les choses et ce qui est tout à fait remarquable. Alors la monogamie, elle est critiquée aussi lorsqu'elle s'accompagne de l'absence de droit au divorce, par exemple. Hein. Donc, vous avez toute une série de lettres à la fin du recueil qui portent sur le phénomène de la dépopulation. Alors la dépopulation, c'est l'idée que le monde est moins peuplé au XVIIIe siècle qu'il ne l'était dans l'Antiquité. Alors aujourd'hui, les historiens de la démographie savent que c'est totalement faux, hein, mais c'était une conviction largement partagée à cette période. On était persuadé que le monde était moins peuplé. Donc c'est le moyen de mettre en cause plusieurs systèmes, au fond, comme vous le dites, la monogamie, hein, parce que dans le monde occidental, elle est en général liée à l'absence de droit au divorce. Donc, Usbek explique que chez les Romains, en revanche, le droit au divorce était beaucoup mieux entendu du point de vue de la propagation de l'espèce, parce que ça permettait aux femmes d'avoir plus d'enfants, puisque les femmes encore fécondes pouvaient avoir de nouveaux enfants avec de nouveaux maris.
Et que rien ne contribue plus à l'attachement mutuel, dit-il, que la faculté du divorce.
Exactement.
Le fait de pouvoir se séparer.
Renforce
la tendresse mutuelle plutôt, alors que l'impossibilité de se séparer tue l'amour en quelques années, dit-il.
Voilà, ce qui fait écho aussi au système du sérail, où l'impossibilité de dire autre chose que vous êtes le maître que j'aime passionnément tue l'amour, précisément, puisqu'il n'y a pas de parole authentique possible. Hein, on l'a bien vu dans la lettre 26 que Usbek adresse à Roxane. Alors, est-il totalement aveuglé? C'est-à-dire, en un sens, on pourrait dire, est-il sot? Lorsqu'il dit ah oui, que vous êtes heureuse, Roxane, de vivre dans un sérail où vous ne pouvez rien faire d'autre que m'aimer vertueusement, hein, puisqu'en gros c'est ce qu'il lui dit, est-il sot ou c'est une lettre de persuasion.
Mais il en fait tellement qu'on a du mal à croire en sa sincérité. Ça termine quand même. Le dernier mot, c'est « Je vous plains, Roxane.
Oui.
Votre chasteté, si longtemps éprouvée, méritait un époux qui ne vous eût jamais quitté et qui put lui-même réprimer les désirs que votre seule vertu sait soumettre. »
Mais chaque mot dans cette lettre est extraordinaire. Parce que, en l'occurrence, hein, réprimer les désirs, ça veut dire satisfaire amoureusement. Ça désigne tout simplement
la frustration.
Mais ça désigne l'union. Mais c'est une étrange conception de l'union sexuelle que de dire réprimer les désirs. Donc ça en dit long, hein, sur cette conception où de la femme surgit quelque chose de dangereux, maléfique, où finalement la satisfaction des désirs est presque l'équivalent de ce que font les eunuques lorsqu'ils punissent les femmes. Hein, on réprime les désirs par la punition, soit par l'union sexuelle elle-même. Donc c'est étrange comme conception. Donc chaque mot est pesé par Montesquieu. Et en effet, il en fait beaucoup trop. On voit que c'est une lettre persuasive, hein, où il s'agit à toute force, hein, avec l'éloignement temporel et spatial que suppose cette lettre. Hein. Il faut imaginer que chaque lettre met 6 mois à parvenir à son destinataire. Hein. Donc Montesquieu joue beaucoup de cette dramaturgie de l'absence et du retard, hein, où la logique du despotisme, c'est une logique de l'immédiateté. Hein. Il faut qu'il y ait simultanéité entre la décision et l'acte, hein, notamment dans la punition, hein, on claque les doigts et la sanction tombe. Or, évidemment, lorsqu'on est en régime épistolaire, lorsqu'on écrit une lettre depuis Paris qui doit aller à Ispahan, les chameaux se hâtent lentement dans le désert et acheminent les lettres, et Montesquieu joue de ce retard. Donc là, en l'occurrence, c'est pas encore, il n'y a pas de demande de punition, mais c'est un effort manifeste de la part d'Usbek pour maîtriser Roxane, pour la convaincre que réellement elle doit être heureuse.
Et qui témoigne aussi de tout le mépris qu'il lui porte.
Mépris,
il ne pense pas une seconde que Roxane puisse avoir cette liberté de pensée dont elle fait preuve dans la lettre 166.
Exactement,
que j'ai
voilà. Donc d'où l'intérêt de lire la lettre 161. Donc bien sûr qu'on
161, pardon. Oui.
Il y a une ellipse immense, hein, puisque entre les deux, il y a presque 140 lettres. Mais en effet, Montesquieu a vraiment admirablement conçu, orchestré son recueil en fonction de cette prise de parole ultime, posthume, hein, de Roxane, alors en pastichant bien sûr de grands suicides tragiques, hein, on pense à Racine là encore, hein, Bajazet et Phèdre aussi, mais derrière ce pastiche, il y a quelque chose de très très sérieux au fond, enfin vraiment qui conduit à relire tout le roman de Sérail, hein, quand on a lu la lettre 161, toute une série d'autres lettres s'éclairent, et notamment cet aveuglement que l'on soupçonnait, bien sûr, hein, l'aveuglement du Speck, on pouvait le soupçonner, mais là, il éclate avec une force admirable, hein, puisque Roxane n'a quasiment pas écrit, hein, et donc on a in fine, une prise de parole qui a beaucoup marqué les esprits. Hein. Juste en passant, on peut dire par exemple qu'il est probable que Rousseau s'en soit souvenu pour la nouvelle Héloïse quand il attribue à Julie une lettre posthume qui, elle aussi, invite à relire tout le recueil. Hein. Donc, c'est vraiment une... Là, pour le coup, dans le terme d'orchestration romanesque, là aussi, c'est un coup de génie de Montesquieu, et qui nous conduit à penser que finalement, la véritable philosophe, et c'est admirable, puisque c'est Usbek qui s'est initié à la philosophie en Occident, qui en est venu à analyser très lucidement de manière approfondie la logique du despotisme, ce qu'il en est de la monarchie, du devenir despotique de l'absolutisme sous Louis XIV et sous la Régence. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur cet aspect. Mais Usbek, si lucide dans l'analyse sociale, politique et philosophique de l'Occident, est totalement aveugle sur ce qu'il met en place, la logique des pouvoirs qu'il met en place dans le Sérail. Et Roxane, on ne sait comment, on ne sait par quelle voie, elle peut accéder à cette analyse admirable qui est la sienne. Hein,
« J'ai su de ton affreux sérail faire un lieu de délices et de plaisirs. »
C'est une phrase évidemment...
qui témoigne de la plus grande liberté de faire d'une situation d'enfermement un lieu de plaisir.
Exactement. C'est le renversement. Rien ne peut être plus abominable pour Usbek, puisqu'il n'a cessé de vouloir que son sérail ne bouge pas et soit précisément un lieu... non pas du tout le lieu du plaisir, mais au contraire le lieu d'une surveillance qui est décrit par Montesquieu presque comme une cellule monacale. Il y a un ordre admirable qui doit régner dans le sérail, dit un de ses eunuques au cours du recueil, et c'est un ordre qui est décrit avec une sévérité, une austérité avec des rituels qui rappellent évidemment, hein, par un effet de surimpression, les rituels qui rythment la vie des religieuses. Et ce n'est pas pour rien, évidemment. Diderot a parfaitement perçu cela, et en écrivant La religieuse beaucoup plus tard, en 1760, Diderot s'est souvenu bien sûr des admirables descriptions de Montesquieu, du sérail et de ce que le sérail fait aux femmes, la frustration que cela suppose, en termes aussi physiologiques, hein, il y a une dimension, Montesquieu s'intéresse à cette dimension-là.
Ah oui, elle est
très présente. Et Diderot, dans son optique vraiment matérialiste, lui, se souviendra directement de cela. Hein. Il y a des échos très très nets, il y a même des citations de chez Diderot. Donc c'est
« Ce langage sans doute te paraît nouveau », dit Roxane, donc on est à la fin des lettres persanes. Vous aviez dit que l'invention par Montesquieu de ce nouveau genre qu'est le roman épistolaire, cette invention est redoublée par la parole de Roxane. Qu'est-ce qui est nouveau? Eh bien, c'est de dire « Nous étions tous deux heureux, tu me croyais trompé et je te trompais ». Tout est dit ici dans le rapport entre l'homme et la femme. Cette parole de sagesse qui vient de Roxane, qui est donc loin d'être la philosophe que Usbek ou que Rica prétendrait être, elle est pas du tout isolée dans la littérature du XVIIIe siècle. Et on parlait hier de l'entretien sur la pluralité des mondes de Fontenelle, donc un dialogue qui date avant le début du XVIIIe siècle, mais qui met en scène, donc le narrateur est une marquise, et la femme ici était loin d'être était loin de jouer le rôle de celle qui ne savait rien, de l'ignorance à qui l'homme apprendrait tout. Et ici c'est pareil, c'est la femme qui en sait beaucoup plus que l'homme.
Oui, tout à fait. Là, elle révèle en effet un savoir, alors qui est peut-être que Montesquieu ne lui n'approuve pas totalement, parce que c'est bien une logique passionnelle aussi, c'est une logique le plaisir qu'elle a su découvrir dans le sérail, c'est sans doute aussi un plaisir du ressentiment, de la vengeance, peut-être pas un plaisir réellement amoureux, mais c'est le plaisir de c'est une passion, hein, qui est la passion de détruire ce que Usbek a voulu construire. Donc elle reste, hein, elle est elle aussi en un sens prisonnière de la logique du sérail. mais c'est une prise de parole féminine qui l'élève à un niveau philosophique absolument remarquable, à un niveau de lucidité et d'analyse, puisqu'elle utilise les termes que Usbek lui-même a utilisés pour décrire le despotisme, hein, donc la dialectique entre liberté et servitude. Et cela correspond aussi à... alors, c'est là que tout est lié chez Montesquieu, à des lettres de Rica, vous y avez fait allusion tout à l'heure, où Rica se demande s'il est mieux d'enfermer les femmes ou de leur laisser la liberté, donc de comparer l'Orient et l'Occident, et où il fait écho au propos d'un philosophe très galant. Alors c'est certainement une allusion à Poulain de la Barre, qui est un philosophe, disons, post-cartésien, mais qui a appliqué, disons, les principes cartésiens à l'émancipation féminine, hein, considérant, c'est un des premiers philosophes réellement féministes, hein, et Montesquieu lui fait écho par la plume de Rica, qui considère donc que la domination masculine est totalement injustifiée, illégitime, hein, et qu'elle est le fruit d'une histoire. Et ça, c'est un principe, c'est un point de vue très important pour Montesquieu. On peut le voir notamment par d'autres textes qu'il a écrits ou qu'il n'a pas fini. Par exemple, les fragments d'une histoire de la jalousie qu'il a imaginé quelques années plus tard, on ne sait pas exactement à quelle date, dont on trouve quelques fragments dans son recueil qu'on appelle Les Pensées, hein, recueil de remarques, et où il, sous ce terme histoire de la jalousie, jalousie chez lui n'a pas du tout un sens psychologique. Hein, c'est comme dans les lettres persanes, c'est un système de domination. Du rapport entre les sexes, hein, le sexe masculin dominant le sexe féminin.
La jalousie, c'est ce qui permet d'observer sans être vu, d'ailleurs.
Alors, c'est aussi, il y a toutes sortes de sens. Hein. Montesquieu joue avec tous les sens, en effet, le sens visuel, le regard. Mais dans cette histoire de la jalousie, ce qui est posé, c'est qu'il n'y a rien de naturel là-dedans, alors que c'est la justification que le despotisme oriental donne pour le système du sérail, hein, c'est l'idée que les femmes seraient naturellement soumises. Et Rica, par la voix de Poulain de la Barre, montre qu'il n'en est rien.
Ni à Ispahan, ni à Paris. Merci beaucoup à vous, Christophe Martin, d'être venu nous parler de Montesquieu aujourd'hui et des lettres persanes. Je rappelle que vous avez dirigé un recueil collectif de textes sur les lettres persanes de Montesquieu, Presse universitaire Paris-Sorbonne, où on trouve vraiment des trésors d'analyse. Je vous en recommande chaudement la lecture. Et puis vous êtes aussi à l'origine d'une édition des entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle, dont on parlait hier, aux éditions Garnier-Flammarion. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver Géraldine Mosna-Savoie et ses deux minutes papillon. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Comme tous les jours, vous nous parlez d'un livre qui vient de paraître et aujourd'hui, de lettres. On reste dans le régime épistolaire, mais des lettres de suicide.
Alors voilà, encore une histoire de lettres, et c'est en vertu de notre partenariat avec Philosophie Magazine qui lui consacre un beau papier que je suis ravie de parler du philosophe anglo-saxon Simon Critchley et donc de ses lettres de suicidé, et c'est qui paraît ce jour même en français aux éditions Max Milo. Alors ce titre, Lettres de suicidé, nous met tout de suite sur la voie. Oui, Simon Critchley est un philosophe un peu à part, et en premier lieu parce qu'il est obsédé par la mort et puis l'humour aussi. Déjà son essai L'heure et le jour racontait ainsi comment il était tombé par hasard sur des thèmes astraux prédisant la mort d'un certain nombre de philosophes, dont la sienne. Dans ses lettres, c'est encore ici la mort qui l'intéresse, mais la mort non pas malgré soi cette fois-ci, mais décidée, le suicide. C'est en mai 2013 que Critchley organise, toujours avec humour, un atelier d'écriture sur la lettre d'adieu. La preuve la plus irréfutable, nous dit-il, que nous possédions pour comprendre le suicide et la logique fatale de sa vision étroite et bornée. Hamlet, nous dit-il, en est le cas d'école. C'est celui qui rabâche, de monologue en monologue, sa peine profonde. Hamlet, c'est, je cite, le puissant mélange de dépression et d'exhibitionnisme. Mais il y a aussi le cas Kurt Cobain, façon déclaration de haine, qui fait d'ailleurs référence au personnage shakespearien. Comme Hamlet, a-t-il dit, je dois choisir entre la vie et la mort, eh bien je choisis la mort. Et puis il y a aussi les lettres d'anonymes qui expliquent leur suicide en raison d'une situation économique impossible, qui en font des lettres de protestation contre le monde, ou encore, et dans la même veine, les lettres qui font du suicide une vengeance politique ou alors très personnelle. Autant de lettres et autant d'explications donc, de raisons, pour tenter de comprendre ce qui conduit au suicide. Car là, eh bien, la question qui guide Crichelet, peut-on parler philosophiquement du suicide comme d'un phénomène comme un autre? C'est-à-dire sans faire intervenir ni le droit ni la morale. Pourquoi même la philosophie, qui nous apprend à mourir, demande Crichelet, condamne-t-elle le suicidaire à être irresponsable ou fautif? Et si les philosophes eux-mêmes n'étaient pas émancipés de la morale, voilà ce qui apparaît tout au long de ces pages, des philosophes qui se tiennent toujours au seuil de la pure liberté, mais qui ne parviennent pas à passer à l'action et à se décider sans raison.
Bah, je rappelle la phrase de Camus, hein, le suicide est la seule raison, la seule question proprement philosophique.
Et Camus est d'ailleurs cité dès les premières pages.
Bon, et ça fait un écho direct à la lettre de suicide de Roxane dans les lettres personnes que j'ai lues tout à l'heure. Quelle belle cohérence.
Tout se tient, tout se tient. Donc, Simon Crichelet, lettre de suicide, et c'est aux éditions Max Milo.
Merci. Donc, on rappelle qu'on trouve quelque chose sur ce livre dans le Philosophic Magazine de ce mois-ci, n'est-ce pas? Donc,
c'est ça.
Donc, le dossier principal, c'est peut-on aller bien dans un monde qui va mal? Et puis, je vous renvoie au hors-série que Philosophy Magazine propose sur les Lumières, d'où cette semaine sur les dialogues des Lumières, hein, les Lumières face au retour de l'obscurantisme. Ces deux Philosophy Magazine sont disponibles en kiosque ce mois-ci. Si, quant à nous, on se retrouve demain pour les chemins du vendredi. On parlera d'Antonio Gramsci, beaucoup cité par les hommes politiques en ce moment. Mais qui est Antonio Gramsci? C'est Nathan Sperber qui viendra répondre à cette question. Pour réécouter l'émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger, hein, la podcaster pour l'écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, un grand merci à Livia Garry qui a préparé cette émission, mais aussi Antoine Ravon, Géraldine Mosna-Savoie bien sûr, Lola Bozès qui est avec nous cette semaine, Marianne Chassor, Nicolas Bouteloup, Olivier Bétard qui a réalisé cette émission. À la prise de son aujourd'hui, c'était Yanis Djoudad. À 11h sur France Culture, vous retrouverez Florian Delorme pour son émission Culture Monde. Bonjour Florian.
Bonjour Adèle.
Vous continuez votre exploration de l'Europe aujourd'hui. Vous allez en Espagne.
Eh ben voilà, exactement. On poursuit notre série sur les luttes internes. On va s'intéresser en particulier à la gauche espagnole.
Ça, ce sera à 11h. Merci Florian.
À demain.
À demain. Tout de suite sur France Culture, votre feuilleton quotidien, la vie moderne.